Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave.
Merci à tous d'être là pour ce cours et le séminaire qui suit. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, je reviens sur la question électrique. Les débats sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, le texte que le gouvernement a proposé, que j'appellerai PPE, c'est l'abréviation, PPE 3 parfois, puisque c'est la troisième édition. J'ai prévu beaucoup de choses, trop sans doute, alors sans doute je finirai pas ce que j'avais à dire, on poursuivra la prochaine fois. Bon, on a cette flexibilité, on a cette liberté de prendre un peu le temps d'approfondir certaines choses. On verra. Bon, alors, évidemment, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais l'électricité est un élément majeur des politiques énergétiques de décarbonation en France et ailleurs. Alors, beaucoup en France, parce que nous sommes un pays déjà très électrique, vous le savez. Nous sommes un pays avec une électricité très décarbonée. Donc on est là au cœur de problèmes très importants. Alors, pourquoi c'est si important? Je le redis, premièrement parce qu'il faut électrifier. Je vous ai montré, j'y reviendrai, que malheureusement on n'électrifie pas assez, mais il faut électrifier. Et il faut électrifier directement. Je vous ai montré qu'en effet c'était plus rentable économiquement, énergétiquement parlant, d'électrifier directement que de passer par des vecteurs. On peut le comprendre assez aisément. La deuxième chose, je le redis, et d'une certaine façon, ça va illustrer ce que je vais présenter ensuite. La question d'une politique énergétique, d'une politique électrique, ne se limite pas à savoir s'il faut tant de nucléaire, tant d'éolien, tant de solaire. Évidemment, il faut produire pour assurer la demande, mais il faut aussi qu'il y ait une politique de la demande électrique, demande d'objets électriques nouveaux, pompes à chaleur, voitures électriques, fours électriques pour l'industrie, enfin, etc. Il faut, pour que cette nouvelle demande électrique se produise, créer les conditions de mobilisation de la demande par les ménages, par les industriels. Et il faut aussi, parce qu'il y a une question de souveraineté énergétique, il faut aussi que... à côté d'une augmentation de cette demande électrique, il y a aussi une augmentation de la production en France et en Europe de ces objets électriques nouveaux. Sans quoi nous allons vers une dépendance de plus en plus grande vis-à-vis d'autres pays. Nous perdons notre souveraineté. Et je lisais, je crois que c'est hier ou ce matin, un article dans Le Monde qui racontait le déficit de la balance commerciale française vis-à-vis de la Chine, par exemple. C'est autour de 40-50 milliards d'euros. C'est presque la facture pétrolière. Alors, si c'est se débarrasser sur le plan budgétaire d'une facture des fossiles pour la remplacer par une autre facture équivalente, en dehors du problème climatique, ça veut dire que là, on n'a pas répondu au problème. Voilà. Et puis, une fois qu'on a ça, il faut évidemment une production électrique qui soit à une hauteur raisonnable, et c'est beaucoup là-dessus que je vais discuter à propos de la PPE. Évidemment, bas carbone, parce que, évidemment, il n'est plus question de mettre trop de fossiles dans la balance, et il faut trouver le bon équilibre. Donc, c'est de ça dont je vais parler, et je vais le faire donc à propos d'un cas précis, c'est la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Je vais vous dire de quoi il s'agit, pour ceux qui ne le savent pas, quelles sont les grandes lignes de cette PPE. Je vais vous dire... l'avis de l'Académie des sciences, cet avis m'importe, puisque j'en suis le rédacteur comme président du comité de l'énergie de l'Académie qui a produit cet avis, et il a eu un certain écho, je vais vous expliquer pourquoi, et je vais vous montrer aussi des impacts tout à fait désagréables, et je vous parlerai de quelque chose d'un peu particulier. Et puis, Il y a une autre chose, c'est que, et je le répéterai, je me réjouis de voir que cet avis trouve confirmation aujourd'hui. La semaine prochaine, un rapport de RTE sur des projections de consommation électrique en 2035 va remettre en cause les annonces faites il y a 4 ans, puis 2 ans, avec des chiffres assez massifs de consommation qui aujourd'hui sont significativement réduits. Et comme on sait que cette PPE, cette politique énergétique, est basée notamment sur ces prévisions de consommation, j'imagine, j'espère, que puisque le texte du gouvernement n'est pas encore sorti sous forme de décret, j'espère que ces nouvelles informations auront un impact sur le texte et qu'il pourra être éventuellement modifié. C'est mon optimisme. Voilà. Donc, voilà. Alors, oui, le séminaire suivra. Très heureux d'avoir Dominique Grand, donc un physicien qui a fait une grande partie de sa carrière au CEA. C'est un nom pour ceux qui s'intéressent aux quelques articles que j'ai faits, notamment dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. C'est un co-auteur, nous travaillons ensemble. Il va vous parler d'un sujet extrêmement important, le taux de retour énergétique, qui est un paramètre qu'il va essayer de vous faire comprendre et qui nous semble important, notamment pour définir le bon mix électrique. Voilà, alors, c'est quoi la PPE La PPE, donc, ça a été créé, comme je lis un peu ce texte, c'est un texte officiel, créé par la loi du 17 août 2015, c'est la loi TECV, Transition énergétique pour la croissance verte, et donc c'est un outil de pilotage de la politique énergétique française. Donc, vous voyez, priorité d'action pour la politique énergétique, et avec l'objectif, évidemment, construite autour de cet objectif de neutralité carbone 2050. Et c'est un texte qui fixe des objectifs en termes de consommation, pas uniquement électrique, mais consommation électrique et consommation totale, de production, quelle part de fossiles, quelle part de nucléaire, éolien, solaire dans le mix, voilà. Et évidemment avec un fort aspect de développement des énergies renouvelables et de politique nucléaire. Alors chaque PPE porte sur deux périodes de 5 ans, donc c'est pour 10 ans, c'est la troisième, et là nous parlons de la période 2025-2035. Alors c'est un texte qui aurait dû être finalisé, voté éventuellement, qui aurait pu conduire à un décret en 2024, normalement, peut-être même un peu avant. Et puis il y a eu tout un tas de retards liés à l'instabilité politique, notamment. Les gouvernements se sont succédés. Finalement, la question énergétique a été peu discutée, si ce n'est pendant... entre la fin 2024 et la fin du gouvernement de François Bayrou. Et en gros, c'est comme ça que ça se passe. En novembre 2024, le texte de la PPE, alors ça, c'est, je crois que c'était le gouvernement Barnier, sort et est soumis à concertation. Et en décembre 2024, l'Académie sort un premier avis, un cahier d'acteurs. CPE, c'est pour Comité de prospective en énergie. Pendant cette période, le premier trimestre 2025, les services de l'État retravaillent sur le texte, éventuellement en tenant compte des points de vue qui ont été remontés lors de la consultation publique, et publient un texte en mars 2025 qui est la PPE 3 révisée, Et nous travaillons là-dessus à l'Académie des sciences, et le 8 avril, nous publions un avis qui est celui-ci, avis de l'Académie des sciences, 8 avril 2025, sur la version révisée de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Alors, ce texte est évidemment public. Vous pouvez y accéder sur le site de l'Académie des sciences, et je vais vous en donner les lignes qui concernent surtout la partie électrique, hein, puisque c'est de ça que nous discutons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la PPE, en gros, hein, j'extrais quelques données du texte révisé, donc c'est ce que le gouvernement aujourd'hui propose à la nation, hein, c'est un texte qui donne des objectifs. Premièrement, en termes de consommation d'énergie, mais vous avez vu, hein, je vous ai présenté plusieurs fois, vous vous souvenez, ce diagramme dans lequel je faisais baisser la consommation, monter l'électricité, et indiquer que tout ne serait pas électrique, il y a une part non électrique, et il faut du carbone, enfin, etc. Donc là, on voit les chiffres, hein, aujourd'hui 1500 TWh de consommation d'énergie, et donc là, c'est une baisse de 200 TWh qui est prévue d'ici 2035. Si je prends pour vous donner une petite mesure de ce que ça signifie, c'est comparons-le entre 2011 et 2024, la consommation d'énergie a baissé en France de 0,7%. Voilà. Donc si on appliquait à peu près régulièrement, si on appliquait ce chiffre, voilà, on serait plutôt à 1400 TWh en 2035. Donc, vous voyez, c'est un rythme beaucoup plus élevé qui est proposé de baisse de la consommation. Alors, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'on nous a expliqué dans ce texte d'où venaient ces chiffres? Ça, non. Mais c'est ce qui est proposé. L'autre, évidemment, grande tendance, et qui est en lien avec cet objectif d'électrification, c'est les chiffres qui sont ici, où vous voyez qu'aujourd'hui, on est, je l'ai déjà dit, hein, à 60% de dépendance de fossiles, avec un pays déjà très électrifié, l'électricité correspondant à 25%. Et comme vous voyez, l'objectif, c'est non seulement de baisser la consommation d'énergie, mais de baisser la part fossile, passer de 60 à 30, donc divisé par deux pratiquement, notre consommation de pétrole et gaz, charbon, on n'en a pas beaucoup. Et puis, par contre, augmenter considérablement les parts d'énergie électrique, 40% au lieu de 27%, et d'énergie renouvelable hors électricité, donc c'est ce qui est biomasse, bois, géothermie, etc. Bon, c'est ça les grandes lignes de la PPE. Alors, il faut voir que la PPE s'appuie sur ces fameux scénarios de prévision de consommation. Il y a plusieurs scénarios, mais en quelque sorte, vous avez deux grands types de scénarios. Il y a ceux qui sont sortis en 2021, c'est essentiellement les scénarios de RTE, mais il y a d'autres scénarios, hein, j'en ai présenté d'autres, l'ADEME, et puis toutes sortes d'associations qui peuvent proposer des scénarios. Mais le scénario, le premier grand scénario sur lequel on a réfléchi à la possibilité d'une nouvelle politique énergétique, c'était les scénarios qui sont sortis en 2021, et le scénario de référence, c'était 640 TWh en 2050. En termes de consommation, hein, je vous rappelle qu'aujourd'hui on est à 440. 200 TWh de plus, c'est colossal, c'est presque 50% de plus que ce qu'il y a actuellement. Puis en 2023, et je l'ai dit, tout le monde était d'accord là-dessus en disant non, le véhicule électrique ça va exploser, l'hydrogène ça va exploser, l'acier vert il y en aura plein, les fours électriques dans l'industrie ça sera massif, etc. Donc RTE nous dit mais non, 640 TWh ça sera en 2035, pas en 2050. Et donc on a différents types de scénarios. Et en fait, on est passé de cette pente-là à celle-ci. Et au fond, c'est bien là-dessus que la politique de programmation, la programmation de l'énergie s'est fondée pour proposer des très hauts niveaux de production électrique qui répondraient à cette demande. Voilà. Alors, évidemment, il y a différents types de scénarios avec différents types d'hypothèses, mais vous voyez que, disons que dans les derniers scénarios, on visait en 2035 quelque chose autour de 600 TWh. Voilà. Alors, ça, je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remonte. La réalité, c'est celle-là aujourd'hui. C'est le maximum qu'on ait consommé en France, c'est dans les années 2010-2020, enfin même un peu avant 2020, c'est autour de 480 TWh. Et puis depuis 2017, hein, depuis 2017, ici, ça diminue. En 2024, on est à 450 TWh. Alors, je ne reviens pas sur tout ça. Bon, le point n'est pas de discuter pourquoi. J'avais donné ces résultats qui étaient plus récents, qui venaient de ce bilan de RTE, hein, du premier semestre. Et comme vous voyez, l'année 2025 ne sera pas mieux que 2024. Donc, il n'y a pas d'électrification supplémentaire en 2025. Donc, la tendance est toujours là. Ça, c'était pour le premier semestre. Et puis, je vous montre quelque chose que... Et je remercie François-Marie Bréant, avec qui je suis en contact, on discute de ces questions. Et très récemment, il m'a montré un certain nombre de chiffres qui sont plus à jour. Mais vous voyez ici, c'est la consommation sur 14 ans. Et voyez que c'est une année en abscisse. Et chaque année a une couleur différente. Et vous voyez ici en noir, c'est 2025. Donc les années bleues, c'est les années, vous voyez ici, de 2012 à 2016-17. Alors bon, c'est un peu mélangé, mais vous voyez la tendance. Hein, en noir, c'est 2025. Et là, on va jusqu'à novembre. Vous voyez, on est en bas de toutes ces courbes. Donc il n'y a pas d'électrification non plus en 2025. À nouveau, je ne m'en réjouis pas. Il faut électrifier, mais on ne le fait pas. Voilà, c'est la réalité. Alors, le texte de la PPE, révisé, c'est ici, j'ai aussi, c'est une copie hein, de certains documents de ce texte pour donner les grandes lignes hein, de cette politique énergétique. La chose nouvelle par rapport à la PPE précédente, une des choses nouvelles et qui est très importante, c'est un changement drastique, c'est qu'au lieu, parce que sachez que dans la PPE qui est toujours en cours, tant que la nouvelle n'a pas été décidée, là, nous vivons avec une programmation pluriannuelle de l'énergie qui indique la fermeture de 14 réacteurs nucléaires. Donc là, il y a un changement, puisque dans ce nouveau texte, il y a l'arrêt. On ne ferme plus les réacteurs nucléaires, on en a quand même fermé avec Fessenheim. Mais là, l'objectif, c'est d'en construire de nouveaux pour tenir compte du vieillissement de ces réacteurs qui, à un moment donné, devront être remplacés, même si on espère, en effet, ça résoudra une partie de nos problèmes, qu'ils sont prolongeables au-delà de 40 ans, certains déjà ont dépassé cette date, mais qu'on pourra aller jusqu'à 50, 60, comme ça se fait dans certains pays. Et la construction donc de réacteurs nouveaux, 6 réacteurs EPR2 et 8 ensuite, mais tout ça n'arrivera pas avant 2035, donc il n'y a pas de changement de production électronucléaire dans la PPE3 de façon quantitative, puisque ça démarrera après. Donc, voilà, on est avec une perspective à peu près entre 360 et 400 TWh d'énergie nucléaire pour la France. Il y a une augmentation d'utilisation des biocarburants, vous avez quelques chiffres ici. Il y a une petite augmentation de la puissance de notre hydroélectricité. Vous avez, alors il y a toujours cette quantité massive d'hydrogène, alors que ça ne bouge pas, mais on continue à indiquer qu'il y aura 8 gigawatts d'électrolyseurs en 2035. La chaleur renouvelable et de récupération, le biogaz qui doit être augmenté. Et puis, quand on regarde la partie photovoltaïque et éolien, là, ce sont des augmentations. Et c'est l'autre caractéristique, je dirais, après la construction des réacteurs nucléaires, l'autre grande caractéristique de ce texte, c'est l'augmentation massive qui est proposée de production éolienne et solaire, avec une multiplication entre 3,5 et 5 du photovoltaïque, jusqu'à 5 hein, à l'horizon 2035. Là, c'est une augmentation qui est d'un facteur à peu près infini, puisqu'il y a très peu d'éolien en mer. Enfin, on est à 0 et quelques gigawatts, et pour passer à 18. Et du côté de l'éolien terrestre, c'est maintenir un taux d'installation de capacité autour de 1 gigawatt par an, 1,5 gigawatt par an, et vous allez voir, ça fait des quantités considérables. Bon, c'est ça qu'il y a aujourd'hui dans le texte qui vous est proposé, qui est proposé à la nation. Oui, alors, enfin, je vous invite à lire l'avis de l'Académie des sciences hein, sur le site web. Je le fais pas ici, ligne par ligne. C'est pas un très long texte, mais... j'ai été surpris par la façon dont la presse l'a présenté ensuite. En le relisant, je relis pas tous les soirs, mais je le relis de temps en temps. En le relisant, je constate, j'essaye d'être objectif, qu'il est assez équilibré, même s'il y a un certain nombre de critiques. Il est équilibré parce que, comme vous allez le voir, il évoque des points positifs de ce texte et des points négatifs. Néanmoins, parce que c'est comme ça que fonctionne la presse, ici, quelques exemples de titres discutant de après l'arrivée du texte de l'Académie et qui, de mon point de vue, sont vraiment inappropriés si on considère réellement ce texte. Voilà, incohérent, irréaliste, programmation de l'énergie critiquée sévèrement, l'Académie étrille la stratégie gouvernementale, très sévère avis, enfin bon, etc., etc. D'ailleurs, le mot étrille arrive deux fois dans deux médias différents. On a l'impression qu'il s'adresse à la même intelligence artificielle. En réalité, oui, c'est ce que je vous disais. Je vais en donner quelques exemples, mais ce texte exprime des points positifs et des points négatifs. Et pour la suite, je parlerai surtout d'un point négatif, contredisant d'ailleurs le sentiment que je vous donnais d'équilibre, mais le point négatif est particulièrement important. Mais vous voyez, donc, évidemment, nous rappelions, parce que nous avions écrit des choses là-dessus, nous disions notre satisfaction de revoir la production nucléaire, donc bas carbone, pilotable, dans la politique énergétique, alors que nous sortions de 10 ans d'une politique qui annonçait la fermeture de 14 réacteurs qui fonctionnaient parfaitement bien. Donc voilà un point positif. Nous réjouissions aussi, au fond, d'une projection d'utilisation de la biomasse relativement, pas trop exagéré, relativement équilibré, qui évidemment tenait compte du fait qu'il y avait des incertitudes sur les ressources en biomasse, du fait qu'il y avait la compétition avec la production alimentaire, l'occupation des surfaces, enfin, etc., etc. Nous nous réjouissions et nous étions dans notre mission hein, du fait qu'il était indiqué qu'il y avait encore tout un tas de technologies insuffisamment matures qu'il fallait continuer à travailler dans les laboratoires hein, donc recherche de laboratoires de recherche fondamentales, technologiques, industrielles et donc évidemment nous étions adressés là-dessus. Là où nous avions quelques critiques, c'est... j'en finis avec l'hydrogène. Hein, nous considérions que à nouveau, ces quantités massives d'électrolyseurs d'hydrogène étaient irréalistes. C'est des choses qu'on avait déjà exprimées. Et deux points importants. La première, c'est qu'au fond, ce texte n'explicite pas bien comment ils arrivent à ces baisses de consommation d'énergie totale. 200 TWh en 10 ans, c'est énorme. Et également ces scénarios de consommation électrique massive qui n'étaient pas assez bien explicités de notre point de vue. Et la dernière chose qui était, et c'est autour de ça qu'on va continuer, c'était le fait que avec une arrivée exclusive dans le mix électrique de capacités non pilotables intermittentes, éolien solaire, éolien en mer, terre et solaire, on avait un mix électrique qui, de notre point de vue, était déséquilibré en matière de pilotabilité et d'intermittence. C'est ce que nous disions dans ce point-là. Et donc nous rappelions que nous nous étonnions que les objectifs de production électrique totale ne tenaient pas compte à travers des scénarios alternatifs de la réalité suivante depuis 2017, donc la baisse de la consommation. Ça, ça nous paraissait important. Et donc nous disions simplement, et je pense que ceci était assez équilibré, de dire il faut repenser tout ça, et notamment les objectifs de production, en les ajustant mieux aux besoins réels et à l'évolution de la consommation électrique. Et donc, nous recommandions de ne pas précipiter l'installation massive d'éolien et de solaire non pilotable sur la base de prévisions de consommation surestimées. Donc, trouver un meilleur équilibre entre production électrique et consommation électrique. Voilà. Alors, c'est quoi, donc, les chiffres, maintenant ? Un peu plus en détail. Et ça, c'est les chiffres qu'il y a dans le texte de la PPE 3, alors février ou mars 2025. Ici, juste pour vous donner où est-ce qu'on... Donc, en bleu, c'est la consommation. Nous sommes à 450 TWh. Et en orange, ici, c'est 540 TWh. Donc, il y a à peu près une centaine de terawattheures de surproduction. Vous vous souvenez que je vous ai montré que la France est un des rares pays à avoir un tel niveau de surproduction électrique. Alors, nous exportons, ça fait des milliards d'euros qui rentrent, effectivement, mais avec 100 terawattheures d'électricité que nous exportons, on en exporte 90 en 2024, en 2025 ça va être à peu près la même chose. Là, avec 100 TWh d'électricité, d'après de sources relativement sûres, c'est à peu près le maximum de ce qu'on peut faire. En fonction des interconnexions disponibles, des réseaux électriques, on peut effectivement faire passer 100 TWh à l'extérieur. C'est bien, on peut peut-être doubler, tripler tout ça, mais non, mais on ne peut pas le faire. Enfin, on peut le faire, mais pour le coup, on ne pourra pas l'exporter si on n'a pas les réseaux qu'il faut. Il faut vraiment avoir ça en tête quand on réfléchit à ces choses-là. Et alors, quand on regarde les chiffres, donc maintenant, il y a un socle nucléaire, donc je l'ai dit, qui est constant, donc entre 360 et 400 TWh. Il y a un socle hydroélectrique qui est aussi à peu près constant. Alors, dans certains cas, on peut prévoir une petite augmentation, mettons, disons, autour de 60 TWh. Et puis, le gros changement est ici. Pour l'éolien en mer, on est aujourd'hui, alors c'est les chiffres de 2023, hein, ça a un peu bougé depuis, bien sûr, 0,65 gigawatts d'éolien en mer, 2 TWh de production, et l'objectif, dans 10 ans, c'est d'être à 18 gigawatts et 70 TWh supplémentaires d'éolien en mer. Pour la Terre, on est aujourd'hui peut-être 24 gigawatts, mais ça c'est les chiffres 2023, 50 TWh d'éolien en mer. Donc là, c'est de passer à une centaine de TWh, hein, entre 40 et 45 gigawatts, ça fait à peu près ça en TWh. Donc c'est une augmentation considérable. Et pour le solaire, on est aujourd'hui plutôt à 24-25 TWh, enfin c'est autour de ces... Voilà, on passe de 20 gigawatts à 80 en moyenne, si vous voulez, 80 gigawatts. ça fait une centaine de térawattheures. Donc, pour ce qui est, ici ça ne bouge pas, hein, pratiquement, et ici on passe finalement d'une situation où aujourd'hui on est à 70-75 térawattheures à 270 térawattheures. Donc c'est le gros changement de ça, c'est de rajouter 200 térawattheures, c'est la partie rouge, de production électrique, éolienne et solaire. Et avec, vous voyez ici les chiffres de capacité, voilà ce qu'il y a aujourd'hui, voilà ce qu'il y aura dans 10 ans. Alors évidemment, la question c'est parce que ça c'est facile à calculer et d'une certaine façon c'est assez facile à installer, enfin entre guillemets, on met des capacités et puis en face, c'est quoi la consommation? Alors si la consommation ne bouge pas, évidemment, vous voyez que là, il y a une sorte d'ineptie parce qu'il n'y a pas besoin de 200 TWh de plus, alors qu'il y a déjà 100 TWh de surproduction. Si on reste à 450-500, ça veut dire qu'on va se retrouver avec au moins 200 TWh de surproduction. Et si on peut en exporter 100, qu'est-ce qu'on va faire des 100? Alors en fait, on ne fera pas ça, on va arrêter. On va arrêter en permanence le nucléaire, les nouvelles capacités éoliennes, solaires, etc. Donc on aura des tas de capacités pour lesquelles on aura dépensé beaucoup d'argent pour les installer, qui ne fonctionnera pas, et évidemment sur le plan économique, ça ne marche pas. Donc c'est ça que nous avions soulevé, si vous voulez. Alors après, évidemment, ça dépend de où on va. Si évidemment on arrive à 700 TWh, alors dans ce cas-là, oui, c'est vrai, mais vous avez vu qu'on n'en prend pas le chemin, et c'est ça la question. Et donc, voilà ce que disait notre avis d'avril 1975. En absence de stockage d'énergie, alors ça c'est un point très important, parce que évidemment, chaque fois on me dit, ah oui, mais on peut stocker l'énergie l'été et puis le ressortir l'hiver. On peut stocker un excès et l'utiliser ailleurs. D'accord, mais pour le moment, ça n'existe pas. Enfin, on voit une tendance sur les batteries électriques, mais ça n'existe pas aujourd'hui. Donc, c'est important de rappeler ça, parce qu'effectivement, enfin, moi, comme d'autres, travaillant sur des questions de stockage, chimique dans mon cas, et de plein de gens dans le monde, ou stockage électrochimique, comme le fait Jean-Marie Tarascon ici, évidemment, la question du stockage est absolument centrale, et il faut y aller, il faut travailler là-dessus, il faut développer ces capacités de stockage, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, en l'absence de ces capacités de stockage, effectivement, cette proposition qui nous est faite a des tas de conséquences, et c'est ce que nous mettions ici, nous en soulevions trois principales. La première, c'est évidemment une perturbation massive du marché de l'électricité. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, avec une très grande variabilité des prix de l'électricité jusqu'à des prix très négatifs de plus en plus nombreux. Si j'ai le temps, on le montrera. Et des prix très très élevés quand il en manque. Le deuxième point, c'est notamment dans un pays comme la France, qui est très particulier dans le sens où nous sommes un des rares pays qui utilise le nucléaire pour équilibrer l'offre et la demande électrique. Plus il y aura de variabilité de production, plus, évidemment, le nucléaire sera sollicité dans des très grandes variations, alors dans des variations de plus en plus fréquentes et d'intensité de plus en plus élevée. Et la question que nous posions, c'est... alors, c'est un travail qu'il faut continuer à faire, de mesurer en effet quel est l'impact, jusqu'à quelle limite notre système de réacteurs nucléaires peut accepter ces très très grandes variations. Et c'était une question qui... Alors, on a été un peu critiqué sur ce questionnement, mais c'est une question que, évidemment, EDF, par exemple... qui gère ses réacteurs a en tête en permanence et travaille là-dessus, bien sûr. Et d'ailleurs, il y aura, alors, la semaine prochaine ou la semaine suivante, un rapport d'EDF sur cette question-là, sur l'impact d'une trop grande modulation sur les réacteurs nucléaires. Voilà, fatigue des matériaux, remplacement des matériaux plus fréquents, donc à nouveau un impact sur le facteur de charge du nucléaire. Et le troisième point, c'est évidemment C'est le cas de le dire, les tensions sur les réseaux électriques, mais là, ce n'était pas la tension au sens électrique, c'était que les réseaux électriques allaient être soumis, en effet, à des charges de travail qui ne sont pas adaptées. Donc ça veut dire aussi des investissements dans les réseaux électriques. Voilà, donc on avait soulevé ça. Sur le stockage. En France, les maxima de puissance appelés, c'est pas loin de 100 gigawatts. C'est pas tout le temps le cas, mais c'est dans les cas extrêmes. Donc il y a des fois, il faut avoir 100 gigawatts. Ici, par exemple, c'est un cas en 2017 où il y avait 95 gigawatts de puissance demandée. C'est un moment particulier. Et donc, voilà comment on y a répondu avec différents éléments. Évidemment, une grande part de nucléaire. Le nucléaire est utilisé de façon très importante. On y met des fossiles, beaucoup d'hydro, et puis tout un tas de petites choses. Dans une hypothèse, vous voyez, de consommation élevée, si je prends les chiffres de RTE, par exemple, là je crois que j'avais fait ce calcul pour l'hypothèse 640 TWh, vous faites le rapport, vous pouvez vous trouver dans des pics qui ne sont plus à 100 gigawatts, mais qui sont à 130 gigawatts dans ces cas de consommation. Donc il y aura des puissances demandées qui seront beaucoup plus élevées. Et ici, bon, je fais une hypothèse, c'est un moment, ça arrive, hein, des fois qu'il n'y a pas de soleil, notamment la nuit, et il arrive aussi qu'il n'y ait pas de vent, et donc dans ces cas-là, vous ne pouvez pas sortir les éoliennes et les panneaux solaires. Donc dans ce cas-là, pour arriver à 130 gigawatts, si vous avez la même quantité de nucléaire, vous avez à peu près la même quantité d'hydroélectricité. Là, il y avait 4 gigawatts d'interconnexion, hein, vous appelez de l'énergie d'ailleurs. Là, j'en ai mis un peu plus, en imaginant qu'on a augmenté nos capacités d'interconnexion. J'ai rajouté de l'hydraulique, mais ici en vert, c'est de la biomasse, des effacements, enfin, c'est d'autres petites choses. À la fin, il vous manque quand même à peu près 25 gigawatts. Hein. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de vent et il n'y a pas de soleil. Voilà. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? S'il vous manque 25 gigawatts, bah, oui, alors si vous avez du stockage, si vous avez eu la possibilité de stocker de l'électricité avant, et que c'est quelque part que vous pouvez récupérer, que vous pouvez mettre dans le réseau, alors oui, c'est possible. Mais alors, si vous faites le calcul, c'est des quantités massives de batteries électriques. Si c'est de... Alors, on a montré avec Dominique, hein, c'est que la part la plus importante, la part la plus difficile, c'est le stockage intersaisonnier. C'est-à-dire, là où on a le plus besoin de stockage, c'est du stockage d'énergie qu'on récupère l'été, où il y a du soleil, pour le remettre l'hiver, où on a besoin de beaucoup d'énergie. Bon, bientôt, ça va changer, parce que l'été, on aura besoin de beaucoup d'électricité, parce qu'il faudra des climatiseurs, peut-être. Enfin, bon, c'est plus compliqué. Mais enfin, bon, c'est une possibilité. Et puis, en réalité, comme on n'aura pas tout ce stockage-là, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre en route les centrales thermiques, hein, à fossiles. Hein. Ça sera le gaz, en particulier naturel, mais bon, si on a du biogaz, bon, ben, on mettra du biogaz. Enfin, vous voyez, donc là, il y a un vrai sujet. Voilà, j'ai noté ça. Bon, j'ai pris ce journal, mais c'est dans quelques journaux. C'était il y a 2-3 jours. Vous voyez que même aujourd'hui, la France, qui est quand même un pays très décarboné, remet en route actuellement ses centrales à charbon. Ben pourquoi? Parce qu'on en a besoin. Voilà. On en a besoin parce qu'il y a des moments... Et alors là, je crois que j'ai... Alors, oui, c'était peut-être juste après. Oui, je reviens là-dessus. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il y a des moments où, effectivement, il fait nuit et il n'y a pas de vent. Voilà. Et vous voyez, c'est ce qu'on observe partout. Hein. Vous voyez, ça, c'est en 2023, parce que je ne l'ai pas mis à jour depuis, mais c'est une courbe qui montre très clairement, c'est le cas de l'Allemagne. Hein. Vous voyez, ça c'est en termes de puissance. Hein. Vous voyez ici donc, la disparition du nucléaire. Vous voyez ici, ça doit être le... Oui, c'est le total ENR, hein. c'est un mélange d'éolien et de solaire. Vous voyez la montée massive de capacité renouvelable. Et ça, en noir, c'est les capacités fossiles. Vous voyez qu'il n'y a aucune corrélation. Plus ça monte là, plus ça descend, non. Ça reste pareil. C'est un peu la réponse du pourquoi de tout à l'heure. Pourquoi on ouvre le charbon, c'est que même si vous avez 180 gigawatts d'énergie renouvelable, s'il fait nuit et qu'il n'y a pas de vent, ça fait zéro. Ça ne fait pas 180. Donc il vous faut autre chose. Et c'est pour ça que les Allemands conservent des capacités thermiques à fossiles. Alors, ils ne les utilisent pas tout le temps, hein, mais ils les gardent. Et tout ça, ça coûte, évidemment. Oui, ça, à nouveau, hein, c'est un cadeau de François-Marie Bréron il y a quelques jours. Vous voyez ici, c'est janvier 2025. Et il y a une semaine hein, où il y a peu de soleil et il n'y a pratiquement pas de vent. Hein. L'éolien ici, ça doit être ça. Et puis ici, il n'y a presque plus rien. Donc ça, c'est la consommation. Le nucléaire sort 55 gigawatts, ce qui est pas mal, hein, c'est beaucoup. Et puis vous avez donc tout ça est complété par de l'hydraulique, et vous voyez qu'ici vous avez quand même 10 à 15 gigawatts de fossiles. Hein, donc voilà. Alors il m'a passé une diapo là, il y a quelques jours suivante. Si on multiplie par 5 le PV, alors ça c'est dans la PPE, et là multiplié par 5 l'éolien, c'est plus que dans la PPE, vous voyez que cette même semaine là l'éolien il est toujours à plat hein, parce qu'il n'y a pas de vent, donc voilà. Donc même avec tout ce paquet là on n'assure pas la consommation si on n'a pas le nucléaire à fond et l'hydro. Voilà, donc c'est ça la difficulté, d'où l'importance du stockage. Voilà. Alors, donc, voilà ce que nous disions dans le texte final de notre avis, et je pense que c'était raisonnable, et je pense que ça participe au débat sur quelle est la politique énergétique que nous devons mener, c'est de recommander un développement raisonnable de ces énergies intermittentes. Nous ne parlons pas de moratoire sur l'éolien et le solaire, nous parlons d'un développement raisonnable et de mieux assurer la cohérence entre le rythme de développement du mix électrique et celui de la demande. Voilà, c'était ça. Et je voudrais terminer en vous parlant de cette affaire qui m'est tombée dessus il y a quelques jours, qui est une affaire scandaleuse, l'affaire Octopus Energy. J'aurais pu mettre James Bond, mais... Octopus Energy, c'est un fournisseur d'électricité donc qui achète et revend de l'électricité. Verte, disent-ils. À la suite de notre avis sur l'Académie des sciences, Octopus Energy nous envoie une première lettre en nous disant alors je vous lis quelques passages, mais demande de communication de documents ayant servi à l'élaboration de l'avis sur la PPE rendu public le 8 avril. Madame, monsieur, conformément aux dispositions blablabla. L'Académie, en vertu de l'article machin, voilà, nous demandons les documents suivants. Donc, notes internes et échanges préparatoires au sein du comité de prospective en énergie, éventuellement procès-verbaux de réunion, brouillons et versions successives du projet d'avis, rapport préparatoire, le cas échéant, contribution individuelle ou avis des membres du comité, toute documentation, blablabla. Ici, voilà, vous disposez d'un délai d'un mois. Alors, comme s'ils avaient quelque autorité, voilà. Pour répondre à cette demande, passer ce délai ou en cas de refus, nous nous réservons la faculté de saisir la commission d'accès aux documents administratifs. Vous voyez, un courrier très sympathique. Voilà. En juillet 2025, nous répondons que nous envoyons toute une série. Alors, c'est. Ah non, ça, c'est la deuxième lettre. Excusez-moi, parce que je crois que je n'ai pas mis les réponses. Oui. Alors, à la suite de cette première lettre, nous nous demandons à l'Académie des sciences si. Ce que c'est qu'un document administratif en ce qui nous concerne, et donc les juristes analysent tout ça, et effectivement, il y a des documents administratifs, les brouillons ne sont pas des documents administratifs, enfin, il y a des choses à donner et d'autres qui ne sont pas obligatoirement données. Et donc nous envoyons toute une série de documents, effectivement des comptes rendus de comités, notamment du comité de prospective en énergie, des rapports de l'Académie des sciences qui ont été publiés, enfin des publications, notamment des publications avec Dominique, etc. etc. Et en juillet, voilà, il continue, il redemande, dans le prolongement de la première demande, voilà, nous voulons tous ces documents, alors les articles de fond de cave et grand, le comité, les rapports, les notes internes, et alors ils insistent sur les brouillons, les notes internes, etc. etc. Nous voulons aussi la liste des membres de tous les comités possibles de l'Académie, enfin, etc. etc. Octopus fait ça, nous répondons, nous envoyons tous les documents. Il y a 10 jours, 15 jours, un journaliste d'un journal qui s'appelle La Lettre, que je ne connaissais pas, je ne sais pas, certains d'entre vous la connaissent peut-être, pas très original comme titre de journal. La Lettre nous dit, nous allons publier un article sur le fait que l'Académie a donné son avis sans base solide. Voilà. Donc, c'est une demande d'un journaliste auprès de l'Académie des sciences. C'est pas moi qui suis concerné, mais évidemment, on m'appelle et on me demande de donner quelques éléments pour répondre aux journalistes. En plus de, alors, évidemment, vous avez compris l'histoire. Il y a du suspense, mais malgré tout, c'est clair que ce journaliste a été envoyé par Octopus Energy. Et donc, le lundi dernier, pas de cette semaine, précédente, il y a un article qui sort dans La Lettre, alors je ne vous la donne pas, mais qui est un torchon, qui est insultant, pas loin de la diffamation, les dessous de la vie tranchée de l'Académie des sciences. Ce journaliste dit « La Lettre s'est procuré les comptes rendus des réunions du comité énergie ». Alors vous comprenez que c'est Octopus Énergie qui lui a filé, puisque ce sont les seuls à qui on a transmis nos documents. Voilà, et vous pouvez aller lire cette chose, mais je n'en fais pas la publicité. Attaquant l'Académie et attaquant un certain nombre de membres de cette Académie et du comité de prospective en énergie. Et je vous fais part du dernier événement en date, c'est le patron de cette boîte lui-même, qui, dans un post sur LinkedIn, écrit la chose suivante. La lettre nous apprend que le rapport de l'Académie... c'est quand même formidable. Alors que c'est lui qui a envoyé le truc à la lettre. La lettre nous apprend que le rapport de l'Académie des sciences qui étrillait violemment les ENR a été rédigé par des, point de suspension, suspense, membres influents pro-nucléaires. Voilà. Voilà. L'auteur de l'avis Et Marc Fontcave, bon, il met chimiste éminent quand même. Et dont le seul titre énergétique, je ne sais pas ce que c'est qu'un titre énergétique, le seul titre énergétique est d'être président du conseil scientifique d'EDF. Alors, point de suspension, conseil scientifique, point de suspension, d'EDF. Cette phrase est déjà un scandale. Sans doute, ce monsieur n'a pas eu contact avec les 300 ou 400 publications que j'ai produites dans ma carrière sur les questions énergétiques, sur le stockage d'énergie, sur l'hydrogène, sur la valorisation du CO2, etc. Alors, donc, je suis incompétent, pro-nucléaire, et en plus, parce que ça c'est classique, et donc je suis climato-sceptique. Voilà, alors ensuite il attaque d'autres membres du comité, Sébastien Candel, que ceux d'entre vous qui sont venus à des cours précédents ont entendu lors d'un séminaire, Yves Bréchet, que j'ai aussi invité ici, etc. Donc, alors, il critique le fait que j'ai répondu qu'il n'est pas besoin d'être spécialiste des énergies renouvelables pour avoir un avis sur la question de la surproduction électrique et du niveau des sources intermittentes. C'est parce qu'il y a un argument dans la lettre et chez ce monsieur que le comité de prospective en énergie n'a aucun spécialiste en énergie renouvelable, il n'y a que des chimistes, des physiciens et des biologistes. Comme si, évidemment, les batteries, ce n'était pas de la chimie ou de la physique, que les semi-conducteurs et les panneaux solaires, ce n'était pas que de la physique et de la chimie, enfin, etc., etc. D'ailleurs, ici, il prend une photo des comptes rendus de l'Académie des sciences, c'est un journal, hein, et il décide à côté. Alors, il y a les comptes rendus chimie, hein, à l'Académie, il y a les comptes rendus physiques, il y a les comptes rendus sciences de la Terre, et voilà. Et ici, vous voyez ce qu'il met, quel rapport avec les énergies renouvelables. Comme si. Enfin, c'est absolument effarant. Voilà. Voilà, donc ça, c'est une insulte sur l'Académie. Et puis voilà, et donc il dit « L'Académie des sciences s'appuie sur des études qui seraient exclues de toute publication scientifique un peu sérieuse. » Donc ça, si ce n'est pas de la diffamation, c'est pas loin. Et c'est le cas de mes articles, puisqu'il dit « Il en est ainsi des articles de Marc Fontcave qui n'ont pas été revus par ses pairs, simplement publiés sur le texte de l'Académie des sciences. » Voilà. Et donc, il sous-entend que les publications, notamment avec Dominique, sur les comptes rendus de l'Académie des sciences, ne sont pas revues par leurs pairs. Je vous informe que les comptes rendus de l'Académie des sciences est un journal à comité de lecture. Quand vous soumettez un article, comme tout journal scientifique, cet article est envoyé à des rapporteurs et vous avez à batailler contre ces rapporteurs pour expliquer votre point de vue s'ils ne sont pas d'accord. C'est ce que nous avons fait. Voilà. Ceci est un scandale. Je vous le donne aujourd'hui parce que c'est un exemple d'une entreprise qui s'est enrichie sur les deniers publics pour installer massivement des choses qui sont peut-être pas utiles et qui continue à le faire en utilisant des méthodes qui sont des méthodes de voyous. Et je le dis en ces termes-là, je préférerais éviter ce genre de choses, mais au-delà de mon cas, qui n'est pas le problème principal, c'est la remise en cause d'institutions comme l'Académie des sciences, qui, je le rappelle, en tout cas pour la partie énergie que je connais bien, fait un travail considérable qui s'appuie sur des experts, qui auditionne des gens, des experts, et qui a en son sein des grands spécialistes qui voilà, s'intéressent à ces questions de l'énergie. Et, alors, je suis très loin d'avoir fini tout ce que j'avais à dire, donc je continuerai la semaine prochaine, mais je veux dire deux choses. La première, c'est que pour le moment, je considère que nous avons raison. Nous avions raison et nous avons raison. Et je dis cela notamment avec le fait que les questions que nous avons posées dans cet avis, qui sont essentielles pour définir une politique énergétique raisonnable, pas excessivement coûteuse, au-delà de nos possibilités, et en ce moment on le voit avec la discussion sur le budget de l'État, que c'est un point important. Nous avions raison, en particulier sur le fait que cette surproduction électrique qui est prévue est quelque chose qui n'a pas de sens. Et je le dis parce que, comme je l'ai mentionné, je crois, tout à l'heure, et c'est déjà annoncé, la France, c'est un journal des Échos, c'était il y a 2-3 jours, qui nous annonce que RTE est en train de changer donc complètement ses perspectives de consommation électrique et que donc la PPE qui s'est construite sur des scénarios de consommation qui étaient très très élevés devrait, en toute logique, être corrigée à nouveau pour tenir compte d'une tendance de consommation électrique qui malheureusement reste faible. Malheureusement, parce que, à nouveau, j'insiste sur le fait que ça doit être. Enfin, l'électrification est essentielle. Et donc, en particulier, si je reprends ceci, ce qu'annonce aujourd'hui RTE, alors c'était ce que je voulais vous présenter ensuite, mais je le ferai la prochaine fois. C'est une marge qui commence à 505 TWh et qui va jusque je ne sais plus combien, 580. Bon, mettons qu'on soit à 540. Dans tous les cas, je prends une moyenne de ce qu'ils vont proposer la semaine prochaine. Il n'y a pas besoin de 200 TWh de plus d'électricité. Donc, en toute logique, c'est purement mathématique. Il faudrait que ce texte soit révisé. C'est ce que un certain nombre de gens raisonnables essayent de proposer au plus haut niveau. C'est ça les enjeux aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.